Alors déjà, on va vérifier quel homme il est. Regardez, quel homme est-il? Quelle heure était-il?
11h10.
Pardon?
11h10,
très bien. Il fallait vérifier. Le texte que nous allons lire aujourd'hui se situe peu après que Jésus soit ressuscité et qu'il est réapparu à ses plus proches disciples. Et donc, j'ouvre ma Bible dans l'Évangile de Jean, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, sinon vous pouvez écouter. Chapitre 20, à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Lorsque Jésus était apparu aux disciples après sa résurrection. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas, cette fois, se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Moi, je ne croirais que ce que je voirais. Que ce que je verrais. Cette réaction est communément citée lorsque des personnes parlent entre elles de foi. L'ironie de la chose, c'est que c'est un disciple de Jésus, Thomas, qui est le premier à exprimer en ces termes, alors que les autres disciples lui annonçaient la résurrection de Jésus. Et c'est donc un ami, un proche de Jésus, un membre du cercle intime, qui se targue avec véhémence de ne pas sombrer, comme les autres, dans la crédulité. Foi ou crédulité? Quelle différence? Où plaçons-nous le curseur? On veut bien croire, mais on ne veut pas être totalement incrédule. Non, c'est pas ça. On veut bien croire, mais on ne veut pas non plus être totalement incrédule. Et nous faut-il des preuves? Faute de quoi, ce serait de la crédulité. Et la crédulité, c'est surtout un bon moyen de se faire abuser. Avec le complotisme ambiant dont il est question sans arrêt, on est en plein dans le sujet. Les informations les plus incongrues, les nouvelles les plus folles circulent, démultipliées par les réseaux sociaux, et on croirait que c'est à qui sortirait la plus incroyable. Et il semble que plus c'est incroyable, et plus de gens y adhèrent. Et pour couronner le tout, il n'est pas rare que certaines informations soient relayées par des croyants eux-mêmes, qui pensent trouver là l'accomplissement de prophéties bibliques et surfent sur la vague à grands coups de citations des paroles de Jésus aux extraits de la Bible. Où est la foi et où est la crédulité dans tout ça? Et même quand Emmanuel et Raphaël, qui nous semblent a priori avoir la tête sur les épaules, nous disent placer leur confiance en Dieu, où est la foi et où est la crédulité? Parce que c'est vrai, et je vais être un peu simpliste, mais si le Dieu de la Bible existe, s'il y a une vie après la mort, et si cette vie est soit un enfer, soit un paradis, et si c'est maintenant que ça se décide, alors il ne faudrait pas quand même passer à côté de ça. Mais d'un autre côté, si tout ça n'est que fadaise, ça serait bête de nous torturer l'esprit et de consacrer un tant soit peu de notre vie, déjà si courte, à ce Dieu sorti tout droit de l'imagination des hommes, bien avant les réseaux sociaux et les thèses complotistes de tous bords. Et donc, il semble plus sage, effectivement, de s'en tenir aux évidences telles qu'elles apparaissent à nos yeux. On va de nouveau afficher la pendule et observer les choses de plus près. Qu'observons-nous ? Pardon ?
Il est toujours 11h10.
Oui, toujours 11h10. Est-ce qu'il est vraiment 11h10 ? Ah, c'est à l'envers. Et alors, il est quelle heure ? 1h10, parce qu'en fait, elle tourne dans l'autre sens, vu que les chiffres sont à l'envers. C'est vrai, avec les chiffres romains, je ne vous ai pas facilité la tâche. Mais voilà, avec un peu d'observation, les choses ne sont plus du tout ce qu'elles paraissaient être. Et donc, cette image de la pendule inversée, ajoutée au fait que c'était grosso modo l'heure du moment présent, plutôt l'heure à laquelle nous devrions être, et hop, c'est parti, on ne cherche pas plus loin. Alors, posons-nous la question. Quand nous disons « je ne crois que ce que je vois », pouvons-nous en être si certains ? Se pourrait-il que la réalité ressemble plutôt à « je ne vois que ce que je crois » ? N'est-ce pas là la réalité telle que nous l'a fait entrevoir cet exercice de la pendule inversée ? Et qu'en quelque sorte, nos pensées et nos perceptions des choses sont déjà modelées par une croyance, une foi, en quelque sorte, déjà ancrée en nous. Je ne crois que ce que je vois, ou je ne vois que ce que je crois. Et là, vraiment, je me place sur un plan général, hein, pas seulement en tant que croyant, mais vraiment sur un plan général. Et d'ailleurs, la question est très intéressante aussi pour les croyants. En matière de foi, l'exercice de la pendule inversée suscite une deuxième question. Est-ce que Dieu se cache ? Plus pervers, brouillerait-il les pistes pour nous induire en erreur ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple s'il se montrait au grand jour ? Comme ça, nous croirions tous en lui et tout le monde serait content. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que d'abord, il l'a déjà fait. Une de ses apparitions les plus marquantes s'est produite en la personne de Jésus, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Jésus, pour faire court, a vécu sur terre 33 ans. 33 ans pendant lesquels le Fils de Dieu s'est incarné en un homme, en chair et en os, comme vous et moi. Et sur ces 33 ans, il en a consacré 3 à prêcher partout où il passait, attestant même, par toutes sortes de miracles, ses propos. Et des foules entières l'ont suivi par milliers, attirées qu'elles étaient par la force de ses paroles et les choses incroyables qu'elles voyaient de leurs yeux. Mais il leur a aussi dit des choses qui ne leur ont pas plu, en particulier sur eux-mêmes et sur leur cœur profond qui les enjoignait à réformer. Alors, ne croyant plus en ce qu'ils avaient pourtant vu de leurs propres yeux, beaucoup se sont esquivés pour ne pas avoir à remettre en question leurs valeurs, les orientations qu'ils avaient prises, leur statut. Bref, pour ne pas avoir à se remettre en question. Et parmi ceux qui ont bénéficié d'un miracle personnel, plusieurs, en définitive, ne croient pas en lui. Et si donc Dieu s'imposait avec l'évidence que nous lui réclamons, ce ne serait pas la garantie absolue d'une réponse de foi de notre part. Face à l'appel de la foi, quel qu'il soit, la réaction la plus naturelle est l'esquive, il ne manque plus que le prétexte. Et en fait, tout ce qu'on voit tout au long de la vie de Jésus, c'est qu'il se dévoile bien plus volontiers soit à ceux qu'il cherche déjà, soit à ceux qui ne le cherchaient pas jusque-là, mais qui se sentent concernés par ses paroles. Il passe du temps avec eux. Il encourage leur recherche de la vérité. Il réoriente ses recherches quand il voit qu'elles sont sincères, mais qu'elles partent dans la mauvaise direction. Et en fait, comme dans toute saine relation humaine, notre relation avec Dieu est basée sur une convergence en pleine liberté réciproque. Dieu nous cherche et nous cherchons Dieu. En Jésus-Christ, incarné en homme, Dieu prouve qu'il nous cherche. Est-ce que cela produit un écho en nous-mêmes? Alors, libre à nous d'aller plus loin dans cette relation. Dans le cas contraire, nous ne sommes tenus de rien. C'est juste que nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. C'est le célèbre penseur chrétien Blaise Pascal, en Clermontois, hein, comme quoi il ne faut pas désespérer, qui a dit « Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. » Et je pense que c'est une des paroles de Jésus qui a pu inspirer ainsi Pascal, Jésus qui disait « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Et dans un autre passage de la Bible, on lit que Dieu rémunère, et c'est vraiment ce terme-là qui est envoyé, littéralement, ceux qui le cherchent. Ça ne veut pas dire que c'est du donnant-donnant, mais c'est plutôt comme l'idée que Dieu sait encourager celui ou celle qui le cherche, un peu comme un étudiant constaterait par ses bonnes notes que le travail paie. Ce qui l'encourage, bien sûr, à aller plus avant dans ses études. Dieu ne se cache pas de ceux qui le cherchent. Dieu se laisse même trouver par ceux qui le cherchent. Ce n'est pas lui qui se cache du monde. C'est le monde, malheureusement, qui se cache de lui. Ce n'est pas lui qui est loin de nous. C'est nous qui nous tenons trop loin de lui pour le voir. Ensuite, il y a la question du « où ». Où chercher? Et où cela va-t-il nous mener? Où chercher? Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte. Je dirais ben, là où il se trouve. Et ce qu'on a appris, c'est que Dieu est partout. On est bien avancé. Mais il est quand même, sinon des lieux, du moins des circonstances, plus favorables à une rencontre avec Dieu. Et quand on veut connaître quelqu'un, on commence bien souvent à écouter ce qu'il dit. Or, Dieu dit que la Bible est sa parole. Alors, ça vaut quand même la peine d'y jeter un œil. Alors, c'est vrai, vous voyez, la Bible est un livre conséquent. Raphaël m'a dit qu'il l'a lu en 2 mois. C'est exceptionnel. Tout le monde n'y parvient pas, mais il se trouve que la plupart des textes du dernier tiers, hein, voilà, c'est le dernier tiers, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ces textes-là répondent bien aux besoins des générations nées après sa rédaction. On peut aussi écouter ce que disent de lui ceux qui le connaissent bien. Nous avons ici, et dans d'autres lieux, peut-être près de chez nous, dans d'autres églises, une multitude de personnes qui nous ont précédés, parfois depuis longtemps, dans cette relation d'intimité personnelle avec Dieu. Et enfin, on peut observer ce qu'il a fait par le passé et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Je ne doute pas une minute qu'une observation attentive de ce qui nous entoure, comme lorsqu'on regarde la pendule attentivement, peut conduire à ce constat d'évidence, et je cite encore une déclaration biblique, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » J'aime particulièrement regarder les documentaires qui explique la naissance de l'univers et son histoire jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois, je me dis, c'est quand même incroyablement fort. Dieu, tu es fort, incroyablement fort. Comment il a pu mettre en place les lois qui ont conduit l'univers dès sa naissance à ce qu'il est aujourd'hui, en ayant dès le départ en projet ce qu'il est aujourd'hui, et en ayant en projet les hommes qu'il habitons aujourd'hui, et sans qu'à aucun moment il n'ait eu besoin d'intervenir pour redresser des situations qui commençaient à tourner mal, qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'observations que nous pouvons faire au quotidien. Et oui, est-ce que cela va nous mener? Là encore, la Bible est claire. Dieu se réjouit de conduire ses enfants vers la vie éternelle, vers ce qu'on appelle communément le paradis. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et vouloir croire que la mort nous soustraira à toute forme d'éternité, ça nous paraît contraire au peu que Dieu nous a dévoilé sur l'au-delà, mais c'est surtout peut-être une incitation trompeuse à rater notre rencontre avec Dieu. Où cela va-t-il nous mener dans cette vie? Peut-être c'est le domaine sur lequel pèse le plus d'incertitudes. On connaît bien notre situation d'aujourd'hui, on sait bien d'où on part, et tout croyant sait bien quelle est sa destination dans l'éternité. Mais ce qu'il y a entre les deux, et là nous pouvons faire toutes sortes de projets, bien malins à qui pourrait dire comment les choses se passeront. Mais moi, ce que je vois, c'est que Emmanuel et Raphaël n'ont fait qu'un tout petit bout de chemin, mais qu'ils sentent déjà forts de ce bout de chemin, et qu'ils sont confiants. La crédulité, au contraire, se caractérise par une instabilité, un côté flottant au gré des nouvelles et des circonstances. On change de croyance quand on dans une attitude de crédulité. Alors qu'au contraire, leur foi en Dieu n'est pas qu'un vague espoir, elle est une ferme assurance. Elle est une démonstration vécue de ce qui ne se voit pas du premier coup d'œil. Et j'ai l'impression qu'ils en voient déjà beaucoup. À eux, comme à Thomas, Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Merci.